Bien bonjour mes petits rochers Ferrero à saveur de grenouille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis présent pour vous parler de l'UFC 268, mes analyses et prédictions complètes, mon preview pour la deuxième bonne carte en deux semaines, la carte des rematchs, Usman Covington 2, Thug Rose contre Wiley Zhang 2 et le Super Banger Justin Gaethje Michael Chandler. C'est les trois combats principaux. Ils ont changé l'ordre de la carte un peu, là, vous allez voir, mais quand même, c'est les trois combats principaux. Je suis là pour vous offrir mes analyses et prédictions, évidemment pour ces combats-là, mais tous les autres sur la carte. Puis on va commencer immédiatement avec le combat principal, le rematch entre Kamaru Usman et Colby Covington. Puis écoute, honnêtement, j'ai de la misère à me demander comment ça pourrait aller mieux que le premier combat pour Colby Covington. Je pense que oui, c'est un combattant qui pousse un pace de malade, qui va lancer des millions de coups de poing, mais honnêtement, Kamaru Usman s'est tellement amélioré au niveau de son punching power, puis c'est son striking en général, je vous dirais, mais surtout, comment bien planter ses pieds puis choisir, sélectionner le coup de poing qui va mettre son adversaire KO. T'sais, on a vu Usman de mieux en mieux travailler derrière son jab, de mieux en mieux envoyer des plus petits punches pour justement set up sa grosse main droite, set up le punch qui va terminer le combat. Puis, tu sais, Colby Covington, oui, va être là puis va lancer un paquet de volume dans sa face. Je vois mal Colby avoir assez d'impact. C'est ça son plus gros problème. En fait, il lance tellement, mais c'est tout des arm punch. Il n'y a pas d'impact. C'est un gars qui cause du dommage à la longue, plus avec son pace que ses coups, même s'il lance 100 quelques coups par ronde. Puis, si tu veux empêcher Kamaru Usman de planter ses pieds et d'essayer de complètement t'arracher la tête avec un punch, faut que tu sois en mesure d'y faire un peu mal. Quand il plante ses pieds, tu arrives avec quelque chose qui le dérange et qui le fait réagir parce que j'ai l'impression tout simplement que Kamaru Usman va planter ses pieds, va lancer du gros power à l'endroit de Colby Covington, puis qu'à chaque fois qu'il va faire ça, Colby ne sera pas capable de le frapper assez fort pour que Kamaru Usman arrête de faire ça. Puis ça, c'est juste une très, très mauvaise nouvelle pour Colby Covington, qui, tu sais, encore une fois, parle bien gros, là, avec ses grosses insultes, puis à dire comment le premier combat était bullshit, puis nanana, nanana, mais je l'ai réécouté ce 10 combats-là, qui était d'ailleurs un des meilleurs combats qu'on a vu dans les dernières années, mais bref, il avait l'air un peu moins brave à la fin du combat qu'au début, tu sais, il s'est fait complètement casser à mâchoire, puis il a essayé de se sauver en douce un peu de la cage pour pas avoir à répondre aux questions, tu sais, il était même pas nécessairement là à protest le stoppage, comme, tu sais, si tu l'écoutes parler en ce moment, t'es genre, hey, il y a du protest le stoppage, quand c'est arrivé, il y a du crier après l'arbitre. Aucunement, il avait l'air bien content que ça finisse. Puis l'autre affaire que je me demande, c'est, puis ça, j'ai entendu ça sur le preview de Bloody Elbow, mais je pense que c'est McNally qui a dit ça sur Twitter, que lui s'attend à ce que, vu que le premier combat est une guerre, ça soit un knockout rapide dans ce combat-là. Puis vu que le combat de Thug Rose puis Wiley Zhang a été un knockout rapide, c'est-à-dire il s'attend à ce que ce combat-là soit une guerre. Puis man, j'ai l'impression que c'est pas le plus mauvais des takes, honnêtement, parce que Kamaru Usman est excessivement dangereux, excessivement violent, puis je ne sais pas s'il va encore s'engager dans une guerre avec Colby Covington, parce qu'on n'avait pas encore vu au moment de leur premier combat le Kamaru Usman avec le one punch power, le killer instinct sur ses pieds, puis le jab vraiment amélioré next level. Puis c'est ça qu'on va voir contre la game de Colby Covington qui, tu sais, moi j'avais ça 4 rounds à 1 en faveur de Kamaru, de 3 rounds à 1, c'est-à-dire en faveur de Kamaru Usman au 5e round de leur combat. Il y a beaucoup de Jacks, ah, c'est 2-2. Je peux comprendre l'argument. Personnellement, je pense que oui, c'était serré, c'était back and forth, mais c'était fermement un combat que je trouvais que Kamaru Usman est en train de gagner. Et puis, man, c'est, avec le step qu'on l'a vu prendre, là, ça va vraiment. C'est dur de s'imaginer que ça peut être différent. La seule affaire que je me demande, c'est est-ce qu'il essaie de lutter un peu cette fois-là? Est-ce que, genre, il est tellement confiant qui fait juste shooter sur Colby Covington puis qui essaie de voir c'est qui le meilleur lutteur des deux, parce que dans le premier combat, on se rappellera qu'il n'y a pas eu de lutte du tout. Ces deux lutteurs qui, souvent, comme c'est le cas quand deux très bons lutteurs s'affrontent, font juste échanger debout pendant tout leur long. Ça ne me surprendrait pas qu'Usman essaie d'amener un peu de lutte ici, essaie de ramener un peu de cage control des genoux contre la cage, ces fameux foot stomp pour essayer d'empêcher justement Colby de mettre ce gros pace-là sur lui, mais surtout pour créer un sentiment d'urgence dans Colby Covington pour que au moment où ce combat-là se retrouve à range, Colby sente qu'il faut qu'il en fasse un peu plus parce qu'il n'a pas contrôlé vraiment le round, puis qu'il se dit si je veux gagner ce round-là, il faut que j'en fasse un peu plus, puis à ce moment-là, qu'il va laisser des ouvertures. Bien que Colby Covington laisse des ouvertures pour les combattants qui sont capables. T'sais, on a vu des gars comme Robbie Lawler juste figé devant Colby à cause de son volume, mais pour les combattants qui sont capables de répondre à ce volume-là, Colby laisse beaucoup, beaucoup d'ouvertures. T'sais, on s'entend que son attaque, c'est 100% offensif. Il n'y a pas beaucoup de mouvements défensifs et de choses défensives qui sont inclus dans le pace auquel il se bat. Et puis, on a vu dans le premier combat que Kamaru Usman était bien game de répondre à ces attaques-là. Donc, honnêtement, j'ai Kamaru Usman par knockout au, je vais dire, deuxième round dans ce combat-là. Et puis, je pense que ça va être un autre exemple de plus qui va nous montrer que Kamaru Usman est probablement le best pound-for-pound fighter actuellement en MMA. Ça nous mène un combat entre Thug Rose et Wiley Zhang, le rematch. Et puis, écoute, autant je suis d'accord pour dire que c'est Carla Esparza qui méritait ce title fight-là. Je suis aussi d'accord pour dire qu'il n'y a personne qui l'a demandé en dehors de Carla Esparza. Il y a une couple de super hardcore fans, mais c'est pas un combat qu'on voulait tant avoir. Puis ce rematch-là, honnêtement, ça se devait d'arriver. Genre, c'est un combat qu'on devait revoir un jour ou l'autre à cause de la façon dont ça s'est terminé. Moi, honnêtement, j'ai de la misère à pick ce rematch-là parce que, on dirait que je l'ai pas vu, le combat. J'ai pas vu de combat entre ces deux-là. Ils ont juste un peu bossé à Twinge, puis sur une des premières échanges du combat, t'as vu, ça a passé un kick absolument sensationnel, un incroyable knockout, mais je l'ai comme pas vraiment vu, ce combat-là. T'sais, je ne sais pas ce qui va arriver quand ils vont se mettre à échanger puis ces affaires-là. Je sais que Rose est capable de lander des strikes super out of nowhere qui surprennent ses adversaires. Est-ce que j'apprends ça? Pas nécessairement. Thug Rose a pas mal toujours été dans sa gimmick là, d'être comme ça. Donc, c'est vraiment difficile. L'affaire qu'il faut pointer, c'est que évidemment ça a été un peu dans le build-up du combat, Thug Rose est invaincu dans les rematchs. Et puis, on s'entend que dans ses 6 derniers combats, incluant ce combat-là, elle a affronté 3 personnes. Joanna, Jessica Andrade, puis maintenant Wiley Zhang. Et jamais perdu un rematch, mais il faut le dire que autant c'est le rematch contre Jessica Andrade, ça a été une split decision, je trouve que ça a été vraiment pas tant serré que ça. Puis je suis d'accord pour dire que Thug Rose l'a probablement gagné haut la main. Le rematch contre Joanna, ça a été une performance moins dominante que dans le premier combat. Évidemment, parce qu'elle avait knocké Joanna. Puis on dirait que c'est à ça que je m'attends. Basically, je m'attends à ce que ça soit Thug Rose, Joanna 2. La différence près que Wiley Zhang, c'est un truc, puis elle va frapper fort. Puis on a vu Thug Rose que peut-être sa seule lacune, c'est au niveau de la durabilité. C'est quelqu'un qui commence les rounds très fort, qui souvent les finit un peu moins fort. Puis même s'il est capable de faire un 5 rounds, c'est rarement elle qui a le plus de jus à la fin du 5 rounds. Fait que j'ai l'impression que j'ai pas le choix de favoriser Wiley Zhang si on y va à la décision, parce que je l'ai vu justement contre Joanna juste prendre tout le dommage du monde puis le donner en retour 3 et 4 fois. Puis c'est sûr que faut qu'elle fasse attention à Thug Rose. Thug Rose est super slick at range avec ses attaques. Autant sur ses punches, ses hooks sont très furtifs que des, tu sais, on a vu le kick dans le dernier combat aussi. Mais j'ai quelque chose en moi qui me dit que ça va être une guerre, ce combat-là, que ça va durer. Puis j'ai l'impression que le cardio, la physicalité pure et le power pur de Wiley Zhang, plus ce combat-là dure, plus que ça va devenir un facteur. Je continue de dire que il faut qu'elle fasse très attention parce que si tu regardes le combat contre Joanna, c'est des head kicks qu'elle mange, Wiley Zhang. À chaque fois qu'elle mange un bon coup qui assonne, qu'elle voit pas venir, on dirait que c'est un coup de pied à la tête. Puis c'est ça qui a passé le KO dans le dernier combat. Donc, ça va vraiment être un combat enlevant, d'après moi. Comme j'ai dit, je pense que ça va être une guerre, je pense que ça va durer. Puis si ça dure, je pense que le style match-up favorise à la longue la combattante la plus physique des deux, qui est sans aucun doute Wiley Zhang. Donc, je vais y aller avec Wiley Zhang dans le rematch. Mais vous pouvez vous assurer que j'ai quand même un petit bet sur le Trevor Whitman parlay, là, sur cette carte-là, c'est-à-dire Usman, Namajunas puis Justin Gaethje. Pas pour spoil mon pick du combat de tantôt, mais je pense que c'est un des combats que le pick est pas évident, mais pas le plus dur pick sur la carte à faire, mettons. Fait que j'ai Wiley Zhang ici, mais écoute, s'il y a un combat 50-50 qui peut aller d'un côté comme d'un autre, c'est définitivement celui-là. Donc, c'est pourquoi j'ai un peu d'argent sur Tug Rose ici, qui est l'underdog, bizarrement enough, là, qui est l'underdog dans ce combat-là. Donc, Frankie Edgar, Marlon Vera. Pas pour continuer dans les reads super simples sur cette carte-là, mais si tu regardes Frankie Edgar, qu'est-ce qui se passe avec lui dans les derniers temps? C'est soit qu'il se fait passer le KO au premier round, ou soit qu'il va dans une bonne guerre back and forth où il a tendance à avoir le dessus. Puis la meilleure preuve de ça, c'est Pedro Munhoz. Tu sais, oui, il s'est fait passer le KO par Sandhagen, finisher absolument incroyable. Oui, il s'est fait passer le KO par Chan Sun Jung, finisseur absolument incroyable. Mais contre Pedro Munhoz, qui lui aussi là, est vraiment très bon pour cut le monde dans les échanges, on l'a vu à tout bout de champ contre Cody Garbrandt, là, notamment, je pense qu'ils sont plus notoires, mais tu sais, bon combattant, bon finisher, très opportuniste. Il n'a pas été capable de finir Frankie Edgar au premier round, puis ça a fini une décision de 5 rounds où c'est Frankie Edgar qui a été back and forth, mais Frankie Edgar a eu le dessus dans ce combat-là. Puis où je m'en vais avec ça, c'est que Marlon Vera, c'est un slow starter, il est réputé, c'est le gars qui perd le premier round, puis plus le combat avance, mieux ça va. J'ai l'impression qu'il va peut-être gagner le troisième. J'ai pas confiance qu'il va finir Frankie cependant, puis il va assurément perdre le premier. Fait que la question va être, est-ce que Marlon Vera va se réveiller assez rapidement dans le deuxième round pour voler comme la deuxième partie de ce round-là, puis aller se sauver avec la décision très serrée? C'est pas ça mon bet. Basically, je pense que Frankie va probablement être capable de gagner les deux premiers puis de limiter les dégâts au troisième pour se sauver avec la décision. Fait que j'ai Frankie, le bon vieux Frankie Edgar, c'est mon pick par décision ici. Ensuite, Shane Burgos, Billy Quarantillo. Et puis, c'est vraiment un bon combat. Mais c'est un autre combat que tu regardes en disant crime. Il y a un combattant qui est tellement plus puissant, tellement plus physique que l'autre dans ce match-up-là que c'est dur. Puis en plus, Shane Burgos, oui, on s'entend, se fait finir quand il perd. Mais les gars qui l'ont fini, c'est basically Calvin Kattar. Et puis Edson Barboza, puis on se rappellera tous le knockout contre Edson Barboza. Il n'y a aucune partie de Shane Burgos qui voulait se faire knocker dans ce combat-là. C'est juste son corps qui a dit « Hey, même mon pit, t'oublies ça » parce que sinon, il restait debout quasiment à 10 secondes après s'être fait knocker. Là, on s'en rappellera, c'est un des knockouts les plus bizarres qu'on a vu dans nos vies. Ceci étant dit, Billy Q a du volume. Billy Q est super game et game de wrestle. Mais l'affaire, c'est que Burgos aussi a du volume. Burgos, sa plus grosse lacune, c'est sa défensive, on va se le dire. Il fait trop de punch avec sa face. Puis c'est pour ça que des fois, quand il se bat contre des super big punchers, il se fait finir. Mais Quarantillo est plus un Cub Swanson qu'un Kattar ou un Barboza, on s'entend ici. Puis ça me porte juste à croire que les deux vont être là, puis ils vont se frapper très fort, puis Burgos va juste frapper plus fort que Billy Q. Puis honnêtement, je pense qu'il est capable d'aller chercher un TKO là, au deux ou troisième round dans ce combat-là contre Billy Q. Chose que j'ai pas. Je pense que Billy Q peut pogner une soumission out of nowhere si ça va au sol ou quelque chose. C'est peut-être sa meilleure chance. Je le vois pas vraiment finir Burgos avec ses points. Donc, j'ai Burgos par TKO, round 2 ici. Et ça nous mène au banger des bangers, Michael Chandler, Justin Gaethje. Et puis moi, je suis vraiment convaincu que autant on surestimait la lutte de Justin Gaethje à l'entrée du combat contre Khabib, on disait hey, « c'est un bon lutteur, Khabib ne sera pas capable de l'amener au sol parce que Gaethje est tellement un bon lutteur », j'ai l'impression qu'en sortant de ce combat-là, on sous-estime la lutte de Justin Gaethje. Et je pense pas que Chandler peut arriver là puis vraiment out-wrestle Justin Gaethje. Puis entre vous et moi, les petits boys, que peu importe lequel des deux que vous aimez, c'est ça que Michael Chandler doit faire s'il veut gagner ce combat-là. Parce que Michael Chandler, oui, il arrive comme un maniaque au premier round. Il est super puissant, il est super explosif. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un crack le chin de Justin Gaethje? Tu sais, quand il perd les deux combats où il a perdu par TKO, c'était comme au fin du troisième round, fin du quatrième round, puis le gars, il avait mangé littéralement tous les coups du monde avant de tomber. Puis c'est vraiment des TKO stoppage où l'arbitre a arrêté le combat. Puis là, Gaethje se relève puis il chiale comme de fait parce que c'est Justin Gaethje. Il veut jamais se faire finir. Puis le gars est toujours capable de continuer. Des fois, il faut juste que tu interviennes pour sa propre santé. Fait est-ce que Chandler va arriver là puis exploser Gaethje au premier round? J'en doute tellement que je pense pas que c'est possible, basically. Et puis, ben, si à partir de là, il n'est pas capable de out-wrestle, chose que je pense pas qu'il va être capable de faire, ça va être une dure soirée de travail pour le chum Michael Chandler, parce qu'on se rappelle de Justin Gaethje à quel point c'est une machine, puis que quand il se met dans son rhythm, le gars, c'est le plus complet des tueurs, puis honnêtement, je pense que Gaethje va gagner ça par knockout au deuxième round, ce combat-là. Et puis, ça conclut la main card. On va aller maintenant sur les prelims, mais juste avant, un petit message de notre commanditaire. Le Hypoke Podcast est commandité par Manscaped, le pro des produits de rasage et de soins des parties intimes pour les hommes. Manscaped propose des outils de haute précision pour vos bijoux de famille. La marque vient tout juste de lancer sa tondeuse 4e génération, le Lawnmower 4.0, partout au Québec et au Canada. Vous avez bien entendu, le 4.0, les boys. Rejoignez les 4 millions d'hommes qui font confiance aux outils Manscaped avec cette offre exclusive juste pour vous. 20% de réduction. Et la livraison gratuite partout dans le monde avec le code MMATALK sur manscaped.com. Imaginez vous raser avec une tondeuse élégante, optimisée et super bien faite qui fait du rasage une partie de plaisir dans la salle de bain. J'ai eu la chance de faire partie des premiers à tester la nouvelle 4.0, puis je dois vous dire, je suis époustouflé. Le design et le niveau de détail qui a été mis dans cette machine-là, ça place la barre très très haut. En plus, on a tous déjà été témoins d'histoires d'horreur dans la douche. Du sang, de la sueur et des larmes ont été versées en tentant de maintenir une allure acceptable à vos petits amis. Et en tant qu'homme, vous savez autant que moi qu'il y a juste une partie de notre corps qu'on ne veut jamais voir en sang. Pis c'est nos bijoux de famille. Fait que faites pas comme si ça vous était jamais arrivé. J'ai déjà vécu une expérience de la sorte, mais plus maintenant, parce qu'avec l'aide de Manscaped, je peux me raser l'esprit en paix et être confiant que peu importe ce qui arrive, peu importe dans quelle situation la vie me place, mes bijoux de famille seront bien rasés et en parfaite condition pour m'aider à affronter la vie. Manscaped a mis au point la tondeuse ultime pour les parties intimes et le corps en développement des fonctionnalités intelligentes doublées d'un confort de rasage sensationnel. Leur tondeuse 4e génération présente une lame en céramique de pointe dotée de la technologie Advanced Skin Safe pour réduire les accidents de rasage. Je me rase les doigts dans le nez avec ça, littéralement. Cette tondeuse nouvelle génération est aussi équipée d'un bouton on and off multifonction qui peut être verrouillé et aussi une lumière LED 4000K pour un rasage de précision. Le Lawnmower 4.1 permet même de personnaliser la longueur de coupe avec 4 tailles de sabots supplémentaires. Est-ce que je vous ai même parlé de la recharge sans fil? La nouvelle technologie de recharge sans fil, la induction électromagnétique, aide la batterie à tenir plus longtemps. Si vous vous rasez la barbe avec la même tondeuse que vos bijoux de famille, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas là pour vous juger. Mais il n'y a personne qui aime avoir des poils pubiens dans la bouche entre vous et moi. Fait que c'est le moment de vous procurer votre propre tondeuse pour les bijoux de famille et le corps avec Manscaped pour prendre soin de ses balls en toute confiance. Bénéficiez de 20% de réduction et de la livraison gratuite avec le code MMATALK sur manscaped.com. Je répète, c'est 20% de réduction et la livraison gratuite sur manscaped.com avec le code MMATALK. Prenez confiance en vous et utilisez toujours les bons outils avec Manscaped. Vos bijoux de famille vont vous remercier. Yeah, yeah. Merci à Manscaped, of course. Et puis, on passe maintenant au début quand même assez attendu d'Alex Pereira face à Andreas Mikhailidis. Que si vous vous rappelez pas c'est qui, ça c'est le doute qui a battu KB Buehler dans le combat, qui a sorti KB Buehler de l'UFC. Où KB a juste reculé et a essayé de lancer des longs kicks. Puis le gars, c'est un grec, le Mikhailidis, puis il avançait, lançait des bombes. Ça n'a pas été un combat très intéressant, là, on doit se le dire, mais c'est Mikhailidis qui avait gagné. Puis c'est direct le genre de combattant que tu veux mettre dans les débuts d'Alex Pereira, qui est le kickboxer, le grand champion de kickboxing, notoire pour avoir passé le KO à Israel Adesanya en kickboxing. Puis là, il débarque en MMA là, comme un genre de boogeyman, puis il s'en vient pour Easy. Mais avant ça, il doit prouver qu'il est capable d'opérer. Puis tu sais, comme je dis, Mikhailidis, c'est un bon match-up. C'est un match-up qui va nous montrer si Pereira peut opérer à ce niveau-là, parce que Si, honnêtement, s'il gagne pas ça, là, s'il fall apart puis il est pas capable de battre Andreas Michailidis, ça va nous montrer tout de suite que le gars, il a pas rapport parce que Michailidis va être at best un lower middle of the pack fighter dans la division des 185 livres. Fait que, t'sais, c'est sûr que Pereira devrait avoir un gars qui court après lui qui va lui donner des énormes counters. C'est un excellent striker, un champion du monde de kickboxing glory, là, comme je vous ai dit. Donc, incroyable striker, knockout power. C'est sûr que la grosse faiblesse là, où il a perdu son seul combat de MMA, il est 3-1 à MMA, puis il a perdu son premier combat, évidemment, c'était au sol. Donc, on serait peut-être intelligent de la part de Michailidis d'aller chercher des takedowns ici. Je m'attends à ce qu'il joue ça quand même jambon pareil. Fait que j'ai Pereira par first round knockout, mais tu sais, le gars, il est un peu plus hype que Proven à Star, puis je veux juste le voir se prouver. Est-ce que ça va arriver? À suivre. Ensuite, Alain Quinta, Bobby Green, ça c'est juste nice, ça va être nice, ça va être très bon. Puis c'est tellement un combat que j'aurais piqué en faveur d'Alain Quinta dans le. Tu voulais une couple d'années dans le temps qui était actif, puis qui était dans les rankings, puis c'était un bon striker qui était capable d'aller chercher de la lutte une fois de temps en temps. Mais là, on dirait que non seulement il n'est pas actif, mais dans ses derniers combats, je l'ai vu de moins en moins motivé, on dirait d'avoir de moins en moins le goût de faire ça. Et puis, tu sais, Bobby Green, oui, il va toujours se retrouver dans des split decisions super serrés, mais il est carrément dans le pic de sa carrière, le somehow, même s'il est vieux puis il n'est plus supposé être dans le pic de sa carrière. C'est un gars qui, par le fait de toujours se retrouver dans des combats back and forth, oui, mais quand même serré où il ne mange pas tant de dommages que ça, ça fait qu'il peut être autant vieux qu'il l'est sans être vraiment fini, sans avoir un manque de durabilité. Puis il est encore là pour littéralement se retrouver dans des guerres. Il a perdu ses deux derniers combats, mais ça, on s'entend contre Thiago Moises. On a vu le classique Bobby Green. Bobby Green, avant ça, 3 victoires consécutives, puis on disait, hey, pour une fois, il a l'air d'avoir un purpose. Tu sais, il y a un peu le côté Alex Caceres dans lui, que Caceres aussi est en train de perdre d'ailleurs, là, mais il y a un peu le côté Alex Caceres dans lui de, oh, je suis là, puis j'échange des techniques, puis c'est, oh, si tu me donnais un coup, je te retourne un 2 à ton tour de lancer, puis tu sais, honnêtement, c'est pas nécessairement comme ça que tu gagnes des combats parce que c'est vraiment pas un round winning style. Puis il semblait avoir corrigé ça dans ses derniers combats. Puis il est arrivé contre Thiago Moises. Puis on a vu exactement ça. Là, exactement ce Bobby Green-là qui a tellement l'air d'être un gars qui est capable de gagner ce combat-là, mais qui en fait juste pas assez pour actuellement gagner ce combat-là. Tu sais, le genre de combat frustrant où le meilleur des deux combattants ne gagne pas. Puis ensuite, ben, ils l'ont matché contre Fiziev. Puis crime, le gars, il s'est rendu à la décision. Ça a été un fight of the night. Shout out à lui. Probablement un des seuls combats où il a mangé un peu de dommages, mais encore là, moins de dommages que la majorité des gens mangent contre Fiziev. Fait que faut lui donner un props. Tout ça pour dire, j'y vais avec Bobby Green par décision, juste pour son activité, puis le fait que même quand il est un peu outmatch, il se retrouve dans des combats serrés, puis Alaya Quinto, on l'a vu comme un peu perdre le momentum dans ses derniers combats, puis être de moins en moins capable de revenir de l'arrière après un mauvais round, et puis, ben, contre Bobby Green, c'est le moyen de perdre, basically. Fait que ça nous mène un autre combat, Phil Oz, Chris Curtis. Belle histoire, celle de Chris Curtis. Le gars est allé à Ultimate Fighter, je pense, un moment donné. Il n'a pas réussi à tailler sa place. Là. Il s'est rendu dans la maison, mais il a perdu. Donc, il a annoncé sa retraite. Puis là, quelques mois plus tard, il a dit « Ah oh, non, j'aime ça me battre, je vais revenir. » Fait que là, il s'est battu sur les régionales. Il a signé pour la PFL chez les 170 livres. Il a perdu son... Je pense qu'il a gagné son premier combat, perdu son deuxième combat. C'est donc retrouvé qualifié pour les séries parce qu'il avait un finish. Il est arrivé dans les séries au moment où il y avait deux combats dans la même soirée. Puis son premier combat, c'était son premier combat qu'il fallait qu'il gagne pour se rendre au deuxième. C'était contre Magomed Kerimov. Donc évidemment, il a perdu. Mais c'est assez bien battu que Magomed Kerimov s'est blessé dans ce combat-là. Donc ce qui est drôle, c'est qu'après ce combat-là, il a annoncé sa retraite. Il dit, ah non, regarde, j'ai encore de perte, je ne gagnerai pas le million à PFL. Je ne suis pas fait pour ça, ça ne marchera pas. Fait qu'il a annoncé sa retraite. Puis là, Bobby Cooper est allé se battre contre quelqu'un. Puis il a gagné. Puis là, plus tard dans la soirée, quand on a appris que Magomed Kerimov était blessé, ben, basically, c'est le chum Chris Curtis qui l'a remplacé. Fait que le gars venait d'annoncer sa retraite, voilà, une heure ou deux, même pas. Puis Le voilà en train de walk out pour son deuxième combat dans la même soirée où il avait déjà annoncé sa retraite auparavant. Évidemment, il a perdu. Il a encore annoncé sa retraite, mais il a décidé de continuer. Et il a gagné ses 5 derniers combats depuis, battant Carl Stewart puis Kenny Robertson, 2 combattants de l'UFC. Et puis, honnêtement, il ne sera pas favori contre Phil Oz. Il va probablement se faire out-wrestled par Phil Oz. Mais Phil Oz, il réussit à être super contrôlé dans ses combats récents. Puis c'est ça qui fait qu'il gagne. Il réussit à savoir le moment où il faut qu'il strike, savoir le moment où il faut qu'il lutte. Parce que c'est de prime et d'abord un lutteur excessivement explosif, excessivement fort physiquement, super athlétique. Mais a tendance à fader un peu dans ses combats, mais gère vraiment bien son énergie. Ce qui fait de lui pas le combattant le plus actif, des fois pas les meilleurs combats, mais gère bien son énergie. S'il ne fait pas ça ici, ça va être excessivement dangereux au troisième round contre Chris Curtis, juste parce que Curtis, c'est un combattant qui a 26 victoires, 8 défaites, des victoires par stoppage, des victoires par soumission. C'est vraiment un bon combattant complexe qui a été dans à peu près toutes les situations du monde, dont se battre une fois dans la soirée, prendre sa retraite, puis se rebattre après avoir pris sa retraite. T'sais, il a tout vu dans le sport. Donc, si Oz ressort sa vieille tendance de mal gérer ses énergies, parce que je pense qu'il va avoir plusieurs opportunités de finir Chris Curtis dans ce combat-là, dans les deux premiers rounds. Mais s'il gère mal ses énergies et se retrouve complètement gazé au troisième, ça va peut-être être très dangereux pour le chum Phil Oz ici. Je l'ai quand même par décision, mais quand même. Ensuite, Edmund Shahbazyan, Nassourdine Imavov, dans un combat où crime, Edmund Shahbazyan, il n'y a pas longtemps, c'était The Guy. Là, il a battu Brad Tavares, il était rendu dans les rankings. Là, tout le monde disait, c'est le next, là, c'est le next à 185 livres. Puis là, ben, il a perdu contre Blondson, ce qui arrive. Puis après ça, il a perdu contre Jack Hermanson par décision. Mais dans les deux cas, son étoile est vraiment pâlie parce que, je ne vous le cacherai pas, il y a des gros premiers rounds. Dès que ça se met à mal aller, il n'est pas capable de récupérer le momentum. Puis c'est vraiment un trait typique des combattants du Glendale Fight Club, des combattants d'Edmund Tarverdian, le coach de Ronda Rousey, Ed Movement, on s'en rappelle tous de ce dude-là. Ben, il y a deux fighters sur cette carte-là qui sont Shahbazyan et Bagdasarian, et puis il y a une côté de moi qui pense que Shahbazyan va quand même sortir en feu au premier round, puis peut-être finir Nassourdine Imavov, je le vois. Peut-être, il y a du bon striking, il est puissant. Peut-être se servir de ça pour soit dropper Imavov ou se servir de ses mains pour set up un takedown. Ou il est bon, je pense qu'il faut qu'il retourne un peu à ça. C'est quelque chose qui faisait très bien, s'installer sur le top, être brutal, essayer de passer la garde, puis de là, peut-être prendre le dos, chercher des soumissions. Je pense que c'est sa manière vraiment de battre Imavov. Si ça passe le premier round, ça va être très intéressant. J'ai quasiment envie que ça passe le premier round pour voir si Shahbazyan va être capable de se contenir et quand même gagner ce combat-là. Moi, j'ai plus l'espoir que j'avais en lui, mais je pense pas qu'il y a assez fall-off comme prospect pour littéralement perdre contre Nassourdine Imavov, qui est un bon combattant, là, détrompez-vous, bon middleweight, mais on dirait que je le vois pas vraiment percer le top 15 de cette division-là, puis Shahbazyan, c'est quelque chose qu'il a déjà fait, donc je pense que le ceiling de Shahbazyan demeure plus haut, même s'il est moins haut qu'on pensait qu'il l'était. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Fait que j'ai Shahbazyan soumission, premier round, puis ça nous mène au Fight Pass Prelim, début dans l'UFC, Ian Gary, prospect irlandais, highly touted, le gars, je pense qu'il est 7-0, t'as vu, j'ai son topologie, c'est vrai ça, 7-0, vient de gagner une décision contre Jack Grant, qui est un gars qui genre 24 combats pro, mais avant ça, avait fini tous ses adversaires, sauf son premier, il y a des TKO, il y a des head kick knockout, et il y a une soumission, et c'était là, c'est un combattant qui est vraiment bon, vraiment complet pour son niveau de développement. Bon striker, mais je pense que je l'aime plus quand il essaie de s'installer sur le top et de lander du dommage. Là, c'est quelque chose qui fait très bien et tout, mais je le vois vraiment essayer de striker contre Jordan Williams parce que Jordan Williams est un gars qui va se laisser ouvert. Tellement ouvert, le gars s'est fait péter debout par Mickey Gall avant de se faire soumettre aisément. Là. Fait que j'ai comme, non seulement Gary est un top prospect qui arrive avec beaucoup de hype, il affronte un gars que je vois pas vraiment gagner beaucoup d'autres combats dans l'UFC. Fait qu'évidemment, j'ai Ian Gary ici. TKO au premier round dans ce combat-là. Et ça nous mène à... Écoute, le plus gros freak show possible ou presque dans l'UFC. Gian Villante, dans son somehow, son dernier combat en carrière, j'ai vu ça passer cette semaine, il annonce sa retraite, va prendre sa retraite à la fin de ce combat-là. Puis il affronte Ogie Bear, Chris Barnett, puis crime. C'est tellement un combat que je devrais pick Gian Villante, on dirait, parce que Ogie Bear est juste... petit. Il est juste minuscule, gros, très gros, pèse over 300 livres, mais c'est un heavyweight de 5 pieds 9 qui essaie d'être light sur ses pieds puis de lancer du volume sans trop de power. Puis j'ai comme l'impression que Gian Villante va toujours être assez un bon kickboxer pour contrer ça, mais tabarnouche, en ses deux derniers combats, il a littéralement perdu par soumission contre Maurice Green puis contre Jacques Collier. Fait que juste pour ça, j'ai Ogie Bear par décision. J'ai Chris Barnett par décision. Je peux pas pick Gian Villante tout simplement. Puis s'il gagne, tant mieux. Ça voudra pas dire grand-chose. Parce que je pense pas que Chris Barnett va en gagner d'autres combats dans l'UFC que contre Gian Villante. Mais je peux plus pick Villante partout. Là. Désolé. Ensuite, Dustin Jacoby, John Allen. Pour y aller un peu plus rapidement, là, parce que ça fait déjà une demi-heure. T'as deux combattants qui vont probablement vouloir se battre debout. Un qui est un ancien kickboxer, super technique. C'est déjà, d'ailleurs déjà battu contre Alex Pereira. Il avait perdu par knockout, là, malheureusement. Mais Dustin Jacoby s'est battu contre Alex Pereira. Donc, ça montrait à quel niveau qu'il se battait en kickboxing. Puis, John Allen va vouloir se battre debout. Va être 300 fois plus sloppy. Puis, si Allen essaie les takedowns pour amener ça au sol, j'ai vu Jacoby avoir une amélioration au niveau de sa takedown defense qui n'est pas rendue excellente, mais qui est rendue fonctionnelle. Puis, je pense pas que tu as besoin d'une défense de takedown plus que fonctionnelle pour ne pas te faire takedown par John Allen. Donc, j'ai Dustin Jacoby par TKO. Au troisième round, parce que je pense que ça peut être un beau back and forth fight. Puis, égoïstement, j'aimerais avoir deux rounds de ces gars-là échanger back and forth. Mais, j'ai Jacoby par KO. Ensuite, Bagdasarian, Bruno Souza. Bruno Souza, super short notice, style un peu douteux, là, genre karaté. On dirait que je ne trace juste pas vraiment les gars qui se battent Lyoto Machida style avant de voir avoir du succès dans l'UFC. Et puis le short notice, il va être significatif ici. Puis Bagdasarian, on dira ce qu'on veut sur son coach. C'est un bon combattant debout, excellente technique debout, très bon kickboxer, même capable d'amener ça au sol au besoin, mais vraiment un très bon kickboxer. J'ai absolument Melsik Bagdasarian par first round TKO. Ici, et ça nous mène à un combat en CJ Vergara, O'Day Osborne, qui est le glass cannon de la division flyweight, le gars. Et il va soit probablement te finir au premier round ou se faire finir un peu après. J'ai tendance à penser qu'il va gagner ici, cependant, parce que oui, Vergara est arrivé super agressif dans son Contender Series fight, puis il a sorti un knockout super rapide, mais sinon, c'est plus un gars d'attrition, c'est plus un gars qui se met sur son reculon, puis qui essaie de counter, puis que plus le combat avance, plus vient gagner ses avantages, puis réussir à trouver une brèche dans son adversaire, puis... Honnêtement, s'il veut se mettre sur le reculon et essayer de counter O'Day Osborne, ça va être difficile parce qu'Osborne est un southpaw qui est très grand pour la division, fait mince, qui a 73 pouces de reach. Donc, je pense que c'est un peu la game qu'Osborne voudrait. Si Vergara essaie de s'installer à range puis le counter, ben Osborne va essayer de le sniper avec des longues combinaisons, des longs punches puis des attaques assez créatives et explosives. Fait qu'honnêtement, je pense que O'Day Osborne peut le cut au premier round de finir ce combat-là. Fait que ça va conclure mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 268. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire, achetez-vous un peu de Manscaped, abonnez-vous à la page et puis on se voit probablement, pas probablement, je vais faire un live là, demain après la carte. Je vais être chez Greg. Je pense que Carabine va même être là. On verra si on va faire tout ça ensemble. Checkera, en tout cas, c'est ça. On se parle après la carte. Ça va sûrement être très bon. Enjoy les petits boys. Après.